franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, la colère de chercheurs et de représentants d'associations d'aide aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire contre un amendement de la loi de santé.
S'agissant de ce qui consiste à pénaliser, encore une fois, tous les comportements conduisant des jeunes, et notamment des jeunes adolescentes, dans 90% des cas, à se priver de nourriture de façon excessive jusqu'à se mettre en danger, dans ces situations-là, le délit que vous proposez de créer, madame, est un délit qui paraît nécessaire et j'y donne un avis favorable.
Voilà, c'était la voix du rapporteur socialiste Olivier Véran le 2 avril dernier. Il répondait donc à l'Assemblée nationale à la socialiste Fanélie Carré-Comte. Début avril, donc, les députés ont voté un amendement qui punit d'un an de prison, de 10 000 euros d'amende, l'incitation à la maigreur excessive sur Internet. Et selon donc des chercheurs et des associations, cet amendement risque d'aggraver la situation en criminalisant les malades. Mathilde Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des associations d'aide aux troubles du comportement alimentaire, la FNATCA. Et puis Antonio Casilli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des réseaux sociaux à Télécom Paris Tech et vous avez étudié avec d'autres chercheurs de l'équipe Anamia les communautés internet de personnes souffrant de troubles alimentaires. Mathilde Pruvot, pourquoi est-ce que vous êtes en colère? On a du mal instinctivement à comprendre pourquoi.
Oui, c'est vrai que très souvent, on pense que ces amendements vont nous satisfaire alors qu'en réalité, ils nous posent problème dans la mesure où, parce qu'ils ont été décidés sans aucune consultation des experts, qu'il s'agisse de médecins, qu'il s'agisse de sociologues spécialistes de ces réseaux, ils ont inscrit des erreurs scientifiques dans la loi et ils ont confondu finalement des conséquences de l'anorexie, le fait que des malades vont aller s'exprimer sur Internet, avec leur cause véritable. Le fait que l'anorexie découle d'un mal-être intérieur profond et que c'est ça qu'il faut traiter si on veut prévenir l'anorexie comme ces amendements prétendent le faire.
Alors, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on en avait d'ailleurs déjà parlé avec vous sur l'antenne, on ne parle pas que de l'anorexie.
Oui, et c'est là également le problème, parce que quand on parle de troubles du comportement alimentaire, il y a 600 000 jeunes concernés en France, et il y a seulement 20% d'anorexiques. C'est-à-dire qu'il y a également des personnes qui souffrent de boulimie, et des personnes qui souffrent d'hyperphagie. Donc là aussi, le problème des députés, c'est qu'ils se concentrent sur une seule partie des troubles du comportement alimentaire qui n'est pas la partie la plus importante. Ouais.
Antonio Casilli, donc cet amendement de la loi de santé, vous dites qu'il criminalise les malades. Le terme est fort. D'abord, qu'est-ce qu'il propose concrètement et pourquoi vous employez ces mots très durs?
Alors concrètement, vous avez déjà mentionné le fait que cet amendement crée un délit qui est inscrit dans le code pénal et qui prévoit des peines de prison pour des personnes qui s'expriment sur Internet. La loi utilise aussi un mot qui est évidemment le mot qu'on n'a pas encore prononcé, le mot est pro-ana. Il existerait sur Internet des communautés qui font l'apologie de l'anorexie. Donc le pro-ana veut dire prôner l'anorexie. Or il se trouve que la loi a été rédigée, ou plutôt l'amendement a été rédigé, et je pèse mes mots, en pompant de l'information un peu ancienne, surannée, de Wikipédia. C'est-à-dire que dans l'amendement, ils ont cité un seul article scientifique qui remonte à il y a 10 ans, et ils ont ignoré toute la littérature scientifique et toutes les études que nous avons effectuées et que nos collègues en Israël, aux Pays-Bas, en Suède ont effectuées, qui ont montré deux choses qui sont vraiment importantes. La première est que ces communautés dites pro-ana, en fait, ne font pas de l'anorexie, une espèce de d'expérience merveilleuse, mais ils expriment de la détresse et ils cherchent de l'entraide. Donc c'est des lieux d'entraide, évidemment, dans lesquels il y a une parole problématique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de personnes qui sont troublées, qui ont des problèmes, qui expriment leur détresse, mais leurs mots, qui parfois peuvent être du type « je veux être parfaite »,« je veux être pesée 40 kilos ou moins », etc., ou « absorber seulement 100 calories par jour », c'est le symptôme de leur trouble, et non pas une incitation à d'autres à devenir anorexique.
Donc finalement, cet amendement va condamner les malades eux-mêmes, en fait, c'est ça le problème.
Mais c'est encore l'autre conséquence négative de cet amendement, et ça on l'a étudié pendant des années, en France en particulier, et qu'à chaque fois qu'on cherche à réprimer ces communautés rentrent dans la clandestinité, et elles établissent une espèce d'entre-soi confortable, et deviennent impénétrables, même d'un point de vue de la structure même du réseau social, impénétrables par les médecins, par les associations, par les parents qui veulent savoir ce qui se passe et ce qui se dit.
Et surtout, en fait, c'est une erreur. En fait, on introduit dans le code pénal une erreur scientifique, puisqu'il n'y a pas à proprement parler d'incitation à l'anorexie. Un juge ne pourra jamais prouver qu'une personne a été incitée à l'anorexie. Pourquoi ? Parce qu'on ne devient pas anorexique qui veut. Pour devenir anorexique, il faut avoir des prédispositions personnelles qui passent par un perfectionnisme, par une difficulté à gérer ses émotions, par des problèmes d'estime de soi. Et les personnes, vous pouvez mettre n'importe qui, entre guillemets, sain sur ces sites, ça ne veut absolument rien lui faire. Si ça fait quelque chose à quelqu'un, si tant est que ça en fasse, parce que les personnes, comme Antonio l'a bien rappelé, qui vont sur ces sites sont déjà malades, c'est parce qu'elles ont des prédispositions personnelles. Donc l'incitation à l'anorexie, ça n'existe pas.
Donc pour vous, cet amendement clairement va aggraver la situation, condamner donc directement les malades. Alors, évidemment, c'est pas du tout le but recherché. Et Antonio Casini, donc il y a un appel qui est lancé là concrètement au sénateur depuis deux jours.
Donc avec la FNA-TCA que Mathilde Prouveau représente ici et avec notre équipe de recherche en AMIA, on a lancé un appel au sénateur parce que la loi est actuellement passé au Sénat, et nous demandons la suppression de l'amendement 1052 ou 1052. Oui. Et donc nous avons même lancé une campagne sur les réseaux sociaux, nous invitons tout le monde à tweeter hashtag suppression 1052, qui est l'hashtag de la campagne, et de, surtout de le tweeter à l'intention des sénateurs.
Parce que c'est ça, en particulier aux trois sénateurs qui sont rapporteurs de la loi santé, donc il y a sénateur Milon, Catherine Deroche et Elisabeth Doineau.
Mais vous les avez rencontrés ou pas?
Il faut
leur expliquer. Quand on vous entend, on a le sentiment de comprendre très très bien le problème quand même, non?
Le Sénat l'avait très bien compris parce qu'il y avait la proposition de loi Boyer en 2008 qui proposait exactement le même dispositif pénal qui avait été rejeté par le Sénat, adopté par l'Assemblée nationale, rejeté par le Sénat. Et la grande différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que le Sénat avait consulté des médecins, des sociologues et des anthropologues. Donc il y a un vrai problème au niveau de la démocratie où on a parfois l'impression que les députés se sentent capables de faire la loi tout seuls, sans consulter des spécialistes et des experts du domaine concerné.
Antonio Casi, pour conclure.
C'est encore plus grave, parce qu'en fait, ce qui s'est passé est qu'autour de la préparation de cette loi, justement, notre étude sur l'anamia sur les communautés pro-ANA avait été rendue à l'Agence nationale de la recherche et contenait un ensemble de lignes guides.
Oui, voilà. Bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre le problème.
Mais je vous dis, il y a eu même quatre question à l'Assemblée nationale à Marisol Touraine, en particulier, qui portait sur le fait de ne pas pénaliser et de ne pas censurer les troubles alimentaires. Ont été complètement ignorés.
Ouais. Mathilde, pour terminer.
Alors oui, juste pour terminer, rappeler qu'en plus, ces mesures, elles prennent la place d'autres mesures que nous, on appelle et qui sont nécessaires parce que effectivement, les troubles du comportement alimentaire constituent un grave problème de santé publique, les députés l'ont bien compris. Mais par contre, pour y répondre, ce qu'il faut, c'est développer le diagnostic précoce et le nombre de structures de soins en France. Actuellement, il y en a seulement 22 pour 600 000 jeunes. La moitié ne sont pas pris en charge.
Il y a un numéro de téléphone d'information sur les TCA, c'est le
0810 837 037.
Et puis le hashtag suppression 1052.
Oui, suppression 1052. Et aussi toujours la pétition à François Hollande pour lui demander la vraie mesure qu'on attend, c'est-à-dire la mise en place d'un plan de santé publique pour les TCA. Vous tapez pétition anorexie 2015 dans Google et vous allez tomber dessus. C'est sur le site change.org.
Merci beaucoup Mathilde Prevot et Antonio Casilli pour votre éclairage aujourd'hui dans ce club des Têtes au Carré. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, changer le groupe sanguin d'un donneur va peut-être devenir possible. Des chercheurs canadiens sont parvenus à transformer du sang de groupe A et B en sang de groupe O presque parfait. Une enzyme produite par une bactérie génétiquement modifiée a pu détacher les molécules de sucre responsables de la différenciation des cellules sanguines. Le sang obtenu n'est pas encore apte à la transfusion pour le moment, mais les scientifiques sont convaincus d'obtenir très prochainement des résultats viables pour la médecine. Des tourbillons de la mort découverts dans l'Atlantique, un groupe de chercheurs allemands observé des tourbillons de plus de 100 km de long dans l'océan, créant des zones à très faible taux d'oxygène. C'est la vitesse de rotation du tourbillon qui empêche l'eau de communiquer avec l'extérieur et donc de se réapprovisionner en oxygène. Les poissons piégés à l'intérieur ne peuvent pas survivre bien longtemps et les scientifiques craignent même pour la sécurité des marins capverdiens qui naviguent dans la zone des tourbillons. Et puis enfin, la Suède retire le paracétamol en comprimé des supermarchés. La vente du médicament était autorisée depuis 2009 hors des pharmacies. Depuis, le nombre d'intoxications au paracétamol a augmenté de 40%. En Suède. Les comprimés sont donc retirés de la vente, mais pas les versions gel et suppositoires.